Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, donc Nicolas Hulot qui quitte définitivement la vie publique. Un an de prison avec sursis pour Karim Benzema. Et puis le Covid, ce nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée.
Deux sujets à 12h40, le Covid et les 6000 classes fermées, plus 50% en 4 jours. Concrètement, que va-t-on faire? Et à 12h50, ce rond-point, je le disais, qui fait polémique à Grenoble, un rond-point pour les Gilets jaunes et financé par la mairie. Éric Piolle, le maire de Grenoble, sera l'invité d'RTL Midi.
Notre question du jour sur RTL.fr, suite à ces classes fermées, 6000 on le rappelle, cette question, faut-il autoriser la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans? Le débat est lancé. L'Agence européenne du médicament donnera sa décision demain. Et vous, pour l'instant, vous dites oui. Oui à 48%, non à 37%. La météo du jour. C'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
L'Aude est toujours en vigilance orange.
Oui, pour pluie, inondation, il y a de fortes pluies localement orageuses tout autour du golfe du Lion avec du vent. Ces pluies se prolongent sur le sud-ouest, mais elles sont beaucoup moins fortes. Le soleil, il s'impose sur la moitié nord malgré quelques grisailles persistantes et le ciel reste couvert sur les bords de Manche. Avec de faibles pluies, tout ça sous des températures fraîches au nord, de 4 à 8 degrés en général, de 9 à 12 au sud et jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci, Peggy.
RTL Midi.
Je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré. Dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. C'est trop lourd payé.
Être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Ces mots sont signés Nicolas Hulot et c'est sûr, ils vont faire réagir chez nos confrères de BFM TV. L'ex-ministre a ce matin surpris une nouvelle fois tout le monde. On se souvient de sa démission du gouvernement. Et bien là, c'est toutes ses fonctions qu'il quitte. Il ne prendra plus la parole, dit-il. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Quelles sont ces accusations qu'évoque Nicolas Hulot?
Eh bien, tout ce que l'on sait, c'est ce que l'ancien ministre de la Transition écologique vient lui-même de révéler. 5 femmes l'accusent dans une enquête d'envoyé spécial programmée demain soir sur France 2. Je cite, d'agression sexuelle et de viol. Des faits qui remontent à au moins 1989. 32 ans, selon Nicolas Hulot, qui insiste sur l'ancienneté et la prescription probable. Il ajoute qu'il sait très peu de choses pour l'instant. On ne sait pas nous-mêmes si ces femmes ont porté plainte ou si ces accusations sont entre guillemets médiatiques à ce stade. L'ex-présentateur star de TF1 a en tout cas choisi de contre-attaquer avant même la diffusion du reportage.
Je n'ai jamais contraint qui que ce soit, notamment quand j'étais célibataire. Mais ai-je besoin de justifier ma vie privée? J'ai été séduit, j'ai séduit. J'ai été des femmes qui ont essayé de me séduire, j'ai essayé de séduire. C'est l'essence de la vie. Ni de près ni de loin. Je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères.
Nicolas Hulot, 66 ans, s'est déjà défendu publiquement d'accusations de viol par un média. C'était en 2018, dans une séquence absolument similaire. La personne concernée était alors Pascale Mitterrand, petite-fille de l'ancien président de la République, à l'origine d'une plainte pour viol en 2008. Mais l'enquête avait été classée sans suite et Nicolas Hulot avait repris sa vie publique. Aujourd'hui, il jette l'éponge, vous le disiez. On le redit, en l'état des informations dont on dispose, aucune enquête est ouverte contre Nicolas Hulot.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Proutot, chef du service police-justice.
Et c'est un sujet qui fera réagir évidemment nos auditeurs tout à l'heure. Dans l'actualité également, l'heure du jugement pour Karim Benzema.
Le joueur finalement condamné à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la sextape. C'est plus que les réquisitions. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Les juges ont estimé qu'il avait délibérément aidé les maîtres chanteurs.
Oui, il a facilité la tentative de chantage dont il était informé. Le tribunal en est certain. Karim Benzema a agi en connaissance de cause et certainement pas avec l'intention bienveillante de protéger son coéquipier comme il le prétend. En atteste son entretien avec Mathieu Valbuena à Clairefontaine en octobre 2015. Il s'est alors montré insistant, s'est servi de sa stature professionnelle et a usé de moyens de persuasion, concluent les juges. Il a brandi les conséquences en cas de diffusion de la sextape sur sa famille et pour son image. Il a également menti, prétendant avoir vu la vidéo. Il l'a enfin incité à recourir à son homme de confiance et ami d'enfance, Karim Zenati, et à payer. Pour les juges, ces faits ont gravement porté préjudice à Mathieu Valbuena, privé d'équipe de France depuis. D'autant plus grave que cette affaire a entaché la réputation du football français. Les avocats de Karim Benzema dénoncent une décision incohérente. Rien dans le dossier ne prouve que le footballeur était au courant des manœuvres des maîtres chanteurs. Ils vont faire appel de cette condamnation.
Un compte rendu d'audience signé Alice Moreno. Autre procès médiatique, c'est celui de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Les poursuites contre l'ancien homme d'affaires ont pris fin avec son décès, mais la cour d'appel a rendu sa décision concernant les autres protagonistes. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, est condamné à un an de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende. Directeur de cabinet de Christine Lagarde, à l'époque, il est reconnu coupable de complicité de détournement de biens publics. L'ancien magistrat Pierre Estoupe écope, lui, de 3 ans de prison ferme pour escroquerie.
Nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée.
Et on va tout de suite partir sur place retrouver William Galibert. Bonjour William.
Bonjour.
On attend de nouvelles mesures, bien sûr, face à la flambée des chiffres du Covid. Plus de 30 000 nouveaux cas hier. Officiellement, pour l'instant, rien n'est tranché.
Rien de tranché officiellement, mais enfin, on commence quand même à y voir clair. Le masque obligatoire pour tous dans les lieux publics, ça ne fait guère de doute, il va revenir. Le message, ce sera portez le masque, lavez-vous les mains, bref, remobilisez-vous. On attend aussi un calendrier pour la troisième dose, à partir de quel âge et sera-t-il obligatoire pour conserver son pass sanitaire? Vraisemblablement oui. Enfin, une communication est envisagée sur la vaccination des enfants puisqu'on attend un avis européen sur la question dans les prochaines heures. Et puis, on nous le répète, pas question de confinement, pas question de couvre-feu à ce stade.
Oui, on sera fixé quand, William?
Normalement, demain, ça devrait être le grand retour des conférences de presse, sûrement avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. D'ici là, ce soir, les parlementaires seront invités par Matignon pour une visioconférence, mais ils n'en sauront pas plus que ce que je viens de vous dire.
William Galibert, en direct de l'Élysée pour RTL. Dans ce contexte, nous avons voulu savoir où l'on se contaminait le plus. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Pas d'enquête récente en la matière au niveau national. La région Occitanie, en revanche, a fait les comptes.
Oui, ils ont demandé en fait à tous leurs cas positifs détectés la semaine dernière comment ils avaient été contaminés. Et résultat étonnant, c'est le milieu sportif qui est le plus cité. Cela concerne aussi bien les salles de sport que la fréquentation des buvettes en allant voir un match ou encore les cours de sport collectif. C'est en fait assez logique hein, car ce sont des lieux en intérieur où l'on ne porte pas le masque. Dans les autres lieux de contamination cités, on a ensuite les établissements pour personnes âgées ou handicapées, où là aussi le port du masque est compliqué, suivi ensuite par les rassemblements privés, et là c'est assez étonnant aussi, car selon la dernière étude de l'Institut Pasteur au mois de mars, les rassemblements familiaux et amicaux ressortaient là comme les principaux lieux de contamination. Bien plus bas dans la liste, on retrouve les bars, restaurants et boîtes de nuit, preuve de l'efficacité du pass sanitaire, et enfin l'école et l'entreprise sont eux aussi peu identifiés comme des lieux de contamination.
Merci beaucoup Agathe. L'école, on en reparle bien sûr. Hein. Ce sera notre premier débat dès 12h40. À Montpellier, à présent, la colère des parents d'une école maternelle, l'école Jeanne de Rouen, après l'agression d'un animateur. C'était lundi. Dans l'enceinte de l'établissement, Aurélia Valarié.
Oui, il est 17h30 lundi quand 4 individus pénètrent dans l'établissement et se dirigent directement vers un animateur périscolaire. Sans hésiter, ils lui donnent plusieurs coups de poing. Selon certains témoins, l'un d'entre eux était même muni d'une barre de fer, ce que dément ce matin une source policière proche du dossier. Un papa qui assiste à la scène décide finalement de s'interposer pour aider l'animateur, mais il est à son tour roué de coups au visage. Les auteurs finissent par prendre la fuite, faisant ainsi 2 blessés. Alors selon les premiers éléments de l'enquête, parmi ces 4 agresseurs, il y aurait un père de famille qui reprocherait à l'animateur d'avoir tiré les oreilles de son fils. Pour l'instant, personne n'a été interpellé. Et de son côté, la mairie de Montpellier annonce un renforcement policier aux abords de l'école.
Récit signé Aurélia Valarié pour RTL.
En Allemagne, le départ d'Angela Merkel se précise.
2 mois après les élections législatives, le SPD, FPD et les Verts ont trouvé un accord. Ils présenteront tout à l'heure leur contrat de gouvernement. Ce sera cet après-midi. Et puis en Grande-Bretagne, il sera peut-être bientôt interdit de cuisiner le homard en l'ébouillantant, recette pourtant traditionnelle. Un amendement en ce sens vient en effet d'être déposé par le ministre de l'Environnement, Marie Bouéda.
Oui, car certains invertébrés ressentent la douleur. Le ministre s'appuie sur un rapport de la London School of Economics, qui comprend plus de 300 articles scientifiques. Le pays veut être à l'avant-garde en matière de bien-être animal. Les crabes, les homards et les poulpes sont concernés. Pour le moment, ce n'est pas encore une loi, mais ça pourrait le devenir. Ils ont étudié la sensibilité de ces mollusques, leur capacité d'apprentissage et d'adaptation. Le but éviter les souffrances inutiles. En Suisse, il faut étourdir l'animal avant de le plonger dans l'eau bouillante. Même obligation en Nouvelle-Zélande et en Norvège. Le rapport souligne aussi qu'il n'existe pas à ce jour une méthode d'abattage à la fois humaine et commercialement viable. Pour les associations de protection des animaux, assommer les homards avec un pistolet électrique ou en les refroidissant dans la glace serait plus humain. Une fois plongés dans l'eau bouillante, ils mettent jusqu'à 3 minutes à mourir.
Marie Bouéda à Londres pour RTL, ça aussi sans doute Pascal, ça fera réagir les auditeurs.
Bien évidemment, et on va rester à Londres parce qu'il y a quoi à Londres, en tout cas en Angleterre.
Avec le foot, Ligue des Champions. Damien Béchiot, cette musique. Après Lille qui a pris hier la première place de son groupe en battant Salzbourg, on le rappelle, 1-0, eh bien c'est au tour du PSG d'en faire autant. Les Parisiens qui affrontent ce soir donc Manchester City. Très clairement, ça risque d'être plus compliqué, Nicolas Georgerot.
Oui, parce que cette saison en Ligue des Champions, jouer à l'extérieur n'est pas leur tasse de thé. À Bruges, à Leipzig, à chaque fois des matchs nuls. Mais ici, le PSG, son entraîneur, Mauricio Pochettino, met la barre plus haut.
Ce qu'on veut, c'est gagner. Bien sûr que si on gagne avec la manière, c'est important. Mais la priorité, c'est la victoire et la qualification. Et si on peut terminer premier, c'est mieux.
Car au-delà d'un succès prestigieux, ce serait le premier du club parisien sur cette pelouse d'ailleurs. Ça éviterait surtout à Messi et ses coéquipiers de se faire des nœuds à la tête et de tout jouer lors de l'ultime rencontre face aux Belges de Bruges. Un suspense qu'ils ont connu à deux reprises ces dernières années. Et Kylian Mbappé est attendu pour cette conquête ce soir. Malade, victime d'un coup de froid en début de semaine, il s'est entraîné normalement hier soir.
Nicolas Georgerot à Manchester pour RTL. Nicolas qu'on retrouvera bien sûr ce soir aux côtés de Philippe Sanfourche pour commenter ce match RTL Foot spécial Ligue des Champions. C'est dès 20h45 sur RTL.
Amandine, votre petit garçon, il est en quelle classe?
Il est en CP.
Elle n'est pas fermée sa classe?
Non, pas encore. Bon, je croise les doigts.
Il y a 6000 classes qui sont fermées, c'est plus 50% en 4 jours. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être notre premier débat dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Sa classe a été fermée hier matin, décision immédiate. On l'a fait tester dans la foulée, il était négatif. Maintenant, je sais que pour reprendre l'école mardi prochain, il faudra le retester lundi. Maintenant, pour lui qui a 9 ans, j'attends de savoir quelles seront les consignes gouvernementales. Je suivrai les recommandations.
C'est-à-dire que si le gouvernement décide d'ouvrir la vaccination aux 5-11 ans, vous le ferez vacciner?
Complètement, sans aucune hésitation.
Ce papa rencontré ce matin pour RTL par Vincent Serrano est l'un des parents confrontés directement aux fermetures de classes. Elles étaient hier 6000, c'est 50% de plus qu'en fin de semaine dernière. Alors que faire? Plus dépister, vacciner les enfants. C'est le premier débat d'RTL Midi avec nous. Marie Guerrier, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation ici à RTL. Et puis Christelle Gras-Le-Gouen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente, je le rappelle, de la Société française de pédiatrie, chef du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques au CHU de Nantes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Petit mot d'abord, Marie Guerrier, le nombre de classes fermées en très forte augmentation, donc plus 50%, je le disais, en quelques jours, mais on a connu bien pire.
Oui, le 2 avril dernier, au pic, on était presque à 12 000 classes fermées. C'était alors 2,13% des classes. Là, on est à 1,14%. Alors, à l'époque aussi, on fermait non seulement les classes au premier cas dans le primaire, comme c'est le cas actuellement, mais on fermait aussi au premier cas en collège et lycée au mois d'avril. Donc là, ce sont essentiellement des classes actuellement qui ferment dans les écoles primaires, puisqu'il n'y a que dans ce cadre-là qu'au premier cas Covid, on ferme la classe en collège et lycée. Je vous rappelle, comme les élèves sont vaccinés à partir de 12 ans, les élèves vaccinés qui sont en cas contact d'un élève positif restent en classe et ceux qui ne sont pas vaccinés rentrent chez eux 7 jours. Bien sûr, ils sont testés.
Christelle Gras-Le-Gouen, il y a ces fermetures de classe. Il y a aussi un autre chiffre qui nous a frappé, c'est le taux d'incidence des enfants de 6 à 10 ans, multiplié par 2,5 en une semaine. On est à 340 cas pour 100 000 habitants. La moyenne nationale, je le rappelle, est à 191. Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous?
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi voir les chiffres de manière éclairée par rapport à la santé des enfants. Et la santé des enfants, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans votre émission, c'est quand même très peu de contaminations qui surviennent en milieu intrascolaire et des enfants qui ne sont quasiment pas malades de cette maladie. Et pendant que on met un focus sur le Covid de l'enfant et les fermetures de classe, nos réanimations et nos urgences pédiatriques débordent d'enfants qui sont eux bien malades et qui auraient vraiment besoin qu'on puisse aussi subvenir à leurs besoins. Donc en ce moment, vous voyez, il y a un décalage.
Mais qui ne sont pas malades du Covid.
Oui. Non, ils ne sont pas malades du Covid. Ils ne sont pas du tout malades du Covid. Ils sont malades de bronchiolite pour la plupart et de tous les virus qu'on connaît de l'hiver et qui ont très peu circulé l'hiver dernier. Et donc, vous comprenez ce décalage qui interpelle un peu la communauté pédiatrique entre ce qu'on vit au quotidien. On triple les gardes, on triple les visites, on travaille le jour, la nuit et on ne sait pas où mettre les enfants en réanimation avec leur bronchiolite. Et là, effectivement, on ferme des classes pour une maladie qui ne les concerne pas et qui, effectivement, n'a pas augmenté du tout le nombre d'admissions en réanimation ou en soins intensifs. Alors, pour les adultes.
Qui ne les concerne pas, on est bien d'accord, hein, le taux d'hospitalisation des enfants est extrêmement faible, voire quasi nul. En revanche, maintenant, on le sait, les enfants transmettent ce virus. Ça circule, pas que à cause d'eux, mais aussi en partie avec eux. On a vu Jean Castex contaminé visiblement via sa fille. Ça veut dire que finalement, ça contribue quand même à la circulation de ce virus.
Alors, les enfants contribuent à la circulation du virus. C'est quelque chose qui est pour autant pas majeur dans la dynamique de la pandémie, et ça, on l'a vu à plusieurs étapes. Ils contribuent, c'est pour ça qu'on les avait masqués l'année dernière, mais leur rôle pour autant n'est pas majeur. Et ce qui paraît quand même important à prendre en compte, c'est que dans cette dynamique et cette cinétique de circulation du virus, l'objectif, c'est d'éviter les formes graves de la maladie. D'éviter que des gens fragiles fassent des formes graves de la maladie. Et donc, le chiffre qui serait intéressant à voir aujourd'hui, c'est le nombre d'admissions en réanimation, le nombre de décès. Hein. Et donc, c'est ça le focus qu'il faut faire aujourd'hui, et relativiser le poids de la maladie chez les enfants ou les sujets vaccinés, qui, on le sait, aujourd'hui, sont quasiment tous protégés des formes graves de maladie.
Je devine, à vous entendre, que vous n'êtes pas favorable à la vaccination des enfants.
Alors, on n'a pas dit qu'on n'était pas favorable. La communauté pédiatrique et aussi les infectiologues adultes se sont prononcés pour un non-urgence. Pas d'urgence à vacciner les enfants à ce stade, dans la mesure où, encore une fois, l'indicateur qui nous préoccupe avant tout, c'est les services de réanimation adultes et c'est le nombre de décès chez l'adulte. Et à partir du moment où tous les adultes seront vaccinés, ils seront protégés de ces formes graves.
Ça veut dire que si demain l'Agence européenne du médicament, comme ça pourrait être le cas, annonce qu'elle est favorable à cette vaccination, vous dites au gouvernement français, stop, ne les suivez pas.
Alors on dit pas stop, on dit pas d'urgence, et peut-être qu'effectivement il y a d'autres priorités en ce moment en matière de santé de l'enfant que d'aller les vacciner contre une maladie pour laquelle ils ne sont pas concernés, ou très peu, et en tout cas pour laquelle ils ne sont pas l'élément clé de la dynamique de la circulation virale.
Marie Guerrier, on nous avait promis 600 000 tests par semaine dans les écoles. On était, j'ai regardé les chiffres, à 140 000 la semaine dernière. Alors, on est quand même loin du compte.
140 000 réalisés. En général, dans la semaine, il en est proposé 300 à 400 000. Et puis ensuite, en effet, en réalisé, dans les faits, il n'y en a que 200 000 à 150 000.
Ça veut dire que les parents ne veulent pas ?
Voilà, en général, c'est ça. C'est que les parents n'acceptent pas que les enfants soient testés. Donc forcément, il y en a moins de réalisés vraiment sur le terrain par rapport à ce qui est annoncé.
Mais en tout cas, il y a une expérimentation qui est menée donc dans une dizaine de départements pour justement
alors
limiter
là, c'est
ces fermetures
beaucoup
de classe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va, dès qu'il y a un cas positif dans une classe, là, on va aller tester tous les élèves de la classe, et ceux qui sont négatifs vont pouvoir continuer à rester en cours. Ça limite le nombre de classes fermées. C'est beaucoup plus pointu quoi, comme dépistage.
Merci beaucoup, Madame Christelle Gras-Le Guen. Il y avait également un peu de bon sens dans les paroles que vous avez dites, donc c'était intéressant dans ce monde parfois qui est un peu passionnel. Merci à Marie Guerrier, et nous allons entamer notre deuxième sujet, le rond-point qui fait polémique à Grenoble. Figurez-vous que la mairie de Grenoble a donné 11 000 euros à des gilets jaunes pour s'installer sur un rond-point et construire une pergola en bois. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Ça va être une première en France, hein. Une municipalité qui donne un lieu aux gilets jaunes. Nous, on est satisfaits, on remercie.
C'est absolument scandaleux parce que l'argent des Grenoblois, 11 000 euros, vont servir à alimenter la polémique portée par les gilets jaunes. Ça pose une vraie question d'éthique. Je suis absolument outrée.
Il est encore en travaux, mais déjà à Grenoble, ce rond-point ne fait pas l'unanimité. Vous venez d'entendre la députée En Marche de la circonscription. Un rond-point pour les gilets jaunes financé par la mairie. Bonjour Éric Piolle.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le maire écologiste de Grenoble. Vous assumez cette décision, c'est 11 000 euros pour ces gilets jaunes ?
Bien sûr, c'est un programme de droit commun qu'on a lancé il y a 3 ans pour que les gens puissent faire des travaux sur l'espace public. Mais avant cela, moi je voudrais dire que je suis très choqué par la polémique qui est déclenchée là par les macronistes, parce que il y a vraiment deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que tous les jours, on entend que l'extrême droite s'organise. Il y a des groupes violents, on l'a vu encore à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles samedi dernier. Et on désigne des boucs émissaires qui sont ceux qui ont tout perdu, et alors que le pouvoir rend les riches toujours plus riches.
Donc, ça peut sembler surprenant. Pardonnez-moi, ça peut sembler surprenant, qui plus est pour le maire écologiste que vous êtes, de soutenir les Gilets jaunes. Au départ, le mouvement, on le rappelle, hein, il part de la taxe carbone sur les carburants.
Oui, moi j'ai été les rencontrer beaucoup, un peu partout d'ailleurs en France. J'ai fêté leur premier anniversaire également sur un rond-point. Je n'ai pas trouvé la caricature qui était pointée. Hein. Mais au-delà de ça, il faut redire que le droit commun s'applique à tous. La règle est la même pour tous, qu'on soit fan d'Emmanuel Macron ou qu'on soit opposant politique. Et qu'à Grenoble, ça fait maintenant 3 ans qu'on a des programmes comme cela qui visent, avec des collectifs d'habitants, hein, de pouvoir aménager un bout qui est généralement un bout qui n'est pas utilisé, hein, de la ville, et donc qui permet de retrouver du commun. Et donc on a fait plus de 45 chantiers comme cela depuis 2 ans et demi, et je suis très surpris de cette polémique.
Mais Monsieur Piolle, vous allez pouvoir nous éclairer. Ce rond-point, il est bien occupé depuis 2 ans par des Gilets jaunes, mais l'occupation de ce rond-point est illégale.
Pourquoi, quand vous occupez de l'espace public, vous avez le droit d'être dans la rue, quoi? Pourquoi
on a le droit d'occuper un rond-point pendant deux ans, de bloquer pourquoi pas la circulation
et il ne bloque pas la circulation. Vous n'avez pas le droit de bloquer la circulation, mais il ne bloque pas la circulation.
Donc on a le droit d'occuper un rond-point en France pendant 2 ans.
De même que vous, quand vous êtes avec 4 potes dans la rue, en fait, vous occupez un bout d'espace public.
Oui, mais généralement, je ne fais que passer. Là, ils sont sur le même emplacement depuis 2 ans.
Je vous confirme que vous avez le droit de rester.
Donc je peux rester pendant 2 ans sur un rond-point, effectivement, avec des amis. Donc vous débloquez une somme, et à ce moment-là, si je reste à Grenoble sur un rond-point pendant 2 ans, vous pouvez me payer, pourquoi pas, une terrasse en bois pour que je m'y sente mieux.
Bah, vous la faites, en fait. Hein. C'est des travaux qui sont faits.
C'est-à-dire que là, vous avez donné 11 000 euros, et vous avez donné des agents municipaux. C'est eux qui ont construit cette terrasse.
Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça crée polémique quand c'est ça. Mais
non, mais, tout le monde fait ça sur l'espace public, vous allez payer tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent maintenant être à Grenoble, dans l'espace public, dans un rond-point, ils s'adressent à vous et vous leur donnez 11 000 euros.
Un rond-point. C'est-à-dire qu'en bas de chez moi, il y a un collectif d'habitants qui a fait un espace jardiné sur l'espace public, en bordure du Grand Boulevard.
Non, mais là, c'est pas la même chose. C'est une manifestation politique, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils portent des revendications politiques. Et pourquoi pas, d'ailleurs?
Ben, là, c'est des habitants, voilà. C'est des habitants. Pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne seraient pas des habitants? Pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures?
Parce que c'est un acte militant, les Gilets jaunes. C'est pas pour, agrémenter la vie ou leur cadre de vie. C'est pour militer pour...
Il y a un bout de ville qui ne sert à rien. Et il y a des gens qui disent, tiens, nous avons le projet d'y faire un peu de mobilier urbain.
Vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi, monsieur Piolle, dans votre argumentation?
Non. Je sais être de mauvaise foi, mais en l'occurrence, là, je pointe...
Ben là, j'ai l'impression que
le deux poids, deux mesures, parce que sur ces 45 chantiers, on appelle ça dans des quartiers populaires, on appelle ça dans le centre-ville,
oui,
on appelle ça partout.
C'est pas dans le cadre de manifestations, monsieur le maire.
Mais là, c'est pas une manifestation, en fait, ils ne manifestent
pas. Ils ne manifestent pas.
Ils se retrouvent là.
C'est un club pour discuter.
Donc là, vous êtes de très mauvaise foi, en fait.
Non, parce que si vous allez.
Mais pourquoi pas, d'ailleurs, c'est intéressant, les gens de mauvaise foi, parfois, on peut sourire.
Vous verrez bien qu'en fait, ils sont là, ils se retrouvent et ils discutent. De même que les gens en bas de chez moi, ils se retrouvent là.
Donc ils sont là pour discuter, il n'y a aucun message.
Et ils discutent.
En fait, ce ne sont pas des gilets jaunes, du coup.
Si, là, il se trouve qu'en l'occurrence, ils se revendiquent gilets jaunes, et je trouve ça très bien, et j'assume totalement.
Merci,
merci en tout cas d'assumer, parce que c'est important toujours d'assumer. Et puis je rappelle que vous avez été élu à Grenoble démocratiquement, donc c'est aux électeurs.
On a même gagné des voix entre 2020 et 2014, vous voyez, on a gagné 30% de voix.
Mais monsieur Piolle, exactement, et les Grenoblois et Grenobloises, comme on dit, c'est à eux que reviendra le dernier mot. Merci en tout cas d'avoir été.
Merci à vous, bonne journée.
Merci d'avoir été au micro d'RTL. Vous pourrez réagir, bien évidemment, à cela. Il est 12h58. Alors, on a une tonne de sujets aujourd'hui. C'est-à-dire
beaucoup
l'arbitrage tapis, Benzema, Nicolas Hulot qui arrête définitivement la vie publique. Le maire de Grenoble que vous venez d'entendre. Le Covid avec les restrictions peut-être. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à 18h avec les auditeurs. Je le dis à la direction. Il est possible qu'on garde l'antenne jusqu'à 18h. À tout de suite.
RTL Midi.